parler de ce livre à deux sur chaque document. Et encore une fois, vous aurez la possibilité de télécharger le document demain ou après-midi dans notre site. Ouais, peut-être que les autres documents vont arriver en fin de réunion, donc vous pourrez les prendre en partie.
Bonjour à tous, donc merci d'être venus nombreux nous écouter aujourd'hui. Donc je vais passer au deuxième point de la réunion, donc plus opérationnel, sur un petit peu le diagnostic de territoire, savoir un petit peu selon les différentes thématiques qui intéressent les partenaires naturels régionaux, quelles sont les caractéristiques du territoire. On a procédé à ce qu'on appelle des tableaux AFOM, à tout, faiblesse, opportunité de l'âge, donc je vais un petit peu plus ce qu'il en retourne. Ensuite, pour chacune des six grandes thématiques qu'on a définies, on a listé les enjeux. Donc à partir de l'étude qui a été réalisée en 2004, l'étude de faisabilité et opportunité, qui avait pour objectif de poser la question si le territoire des Préalpes pouvait correspondre aux critères d'éligibilité des parcs, et donc continuer sa démarche de candidature au label parc. Si vous voulez, la finalité un petit peu de ce premier travail de diagnostic qu'on va faire collectivement aujourd'hui, c'est à partir des enjeux sur lesquels on va s'entendre, de travailler sur les orientations qui seront les grandes bases du document cadre, qui est la charte, la future charte du parc naturel régional. Donc pour commencer, je vais vous présenter des sources qui nous ont permis de faire ce premier diagnostic. Ce n'est pas nous qui avons ce diagnostic, puisque nous avons choisi notre collaboration avec le comité mixte assez récemment. On s'est servi, donc, comme je l'ai dit, d'études de faisabilité et d'une seconde source d'information qui est l'enquête qui vous est sûrement parvenue et auquel vous avez été aujourd'hui 80-85 à répondre. Et on espère dépasser la centaine de réponses optimales sur 500 endroits, donc une enquête qui a assez bien fonctionné. Donc, je vous ai mis un graphique. Avec, puisque en introduction vous pouviez préciser quels étaient vos domaines de compétences. Et donc on voit que le domaine tourisme, sport et loisirs, patrimoine naturel, architecture, paysage, pêche et chasse sont assez bien représentés. Puis on a ensuite un certain nombre d'autres domaines d'intervention qui sont, pour présenter, on a en tout une vingtaine de domaines d'intervention. Donc pour commencer, la partie biodiversité, patrimoine naturel. Donc pour revenir un peu plus précisément sur ce qui est un diagnostic à toute faiblesse opportunité de l'âge, les atouts, c'est ce sont les forces sont présentes aujourd'hui sur le territoire et qui peuvent servir à argumenter la candidature du territoire au label PAC. Les faiblesses, ben, à l'inverse, ce sont les faiblesses du territoire, mais qui peuvent aussi servir à la candidature, puisque comme Jacques vous l'a montré tout à l'heure, pour pouvoir candidater un territoire, il doit présenter certaines fragilités pour justifier les financements qui seront concentrés sur ce territoire. Les opportunités, ce sont les éléments qui sont présents aujourd'hui et qui, si on travaille un petit peu plus collectivement dessus, peuvent apporter une amélioration qualitative du territoire. Et les menaces, à l'inverse, tendances qui sont en train de naître sur le territoire et qui peuvent, nuire à la vie collective et éventuellement aussi au patrimoine naturel, culturel. Donc, pour vous présenter la première diapo sur les patrimoines naturels, donc, je vous pointe très rapidement les principaux atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Je vais vous passer l'ensemble des 12 diapos qui concernent le diagnostic. Et on reviendra ensuite dessus pour faire un débat et juste apporter des éléments complémentaires et qu'on puisse ajuster et discuter sur ces éléments. Donc, sur les atouts, souligner la richesse faunistique et exceptionnelle du territoire, les paysages aussi exceptionnels et le fait que l'agriculture soit encore bien présente, qui on va dire sont les principaux atouts aujourd'hui du territoire. Au niveau des faiblesses, on a justement aujourd'hui aussi une structure qui chapeaute un petit peu le pilotage la préservation des patrimoines et entre parenthèses le parc naturel régional pourrait éventuellement jouer ce rôle. Au niveau des opportunités, on a effectivement 50% du territoire en IF de type 1 et pratiquement 100% du territoire en pièces de type 2, qui sont des zones naturelles, des zones d'inventaire naturel, qui présentent la caractéristique d'avoir des raretés assez exceptionnelles, qui montrent un petit peu la valeur du territoire en termes de patrimoine naturel. Et en termes de menaces, souligner les fermetures du milieu liées à la déprise agricole, avec un danger d'homogénéisation des habitats, puisque qui dit fermeture des milieux, dit disparition des milieux ouverts, et toutes les espèces qui sont associées à ces milieux, qu'elles soient forestiques ou faunistiques. Deuxième menace, l'urbanisation incontrôlée, puisque c'est quelque chose qui est ressorti, assez fortement du diagnostic 2004, avec une pression foncière qui va en augmentant. Donc au niveau des enjeux, de la même manière, je ne vais pas tous vous les relire, puisqu'il y en a un certain nombre, je vais passer sur ceux qui m'ont semblé les plus intéressants. Un enjeu de préservation de la biodiversité par le maintien des pratiques traditionnelles d'exploitation de l'espace, c'est assez intéressant parce que ça croise à la fois la biodiversité et les pratiques humaines qui caractérisent fortement ce territoire et ses paysages. Deuxième point, en réponse à l'absence de structure qui va chapeauter l'intervention environnementale, il y a un enjeu d'appréhension globale des aspects environnementaux sur le territoire. Et en troisième point, le soutien aux activités agricoles et respectueuses de l'environnement, puisque les Préalpes sont un territoire encore fortement structuré au niveau agricole et il faut profiter de cette opportunité pour travailler avec les agriculteurs à une amélioration qualitative des pratiques. Donc voilà pour la première thématique. Pour ce qui est du patrimoine culturel historique, donc globalement, en atout, on peut souligner la grande richesse culturelle sur l'ensemble du territoire. Donc les vestiges des différentes civilisations successives qui justement sont situées sur le territoire, donc avec des éléments historiques, préhistoriques, qui ont formé eux aussi les paysages. Voilà, globalement, aussi la présence de sites historiques et des différents monuments, châteaux, monuments religieux et villages un petit peu caractéristiques des Préalpes. En faiblesse, éventuellement la difficulté à valoriser un patrimoine dispersé. Donc il y a des cases qui apparaissent un peu vides. Notre objectif c'est justement de les remplir ensemble. J'imagine qu'il y a plus de faiblesses que ça. Nous on a travaillé aujourd'hui sur le génétique de 2004, qui est justement actualisé, donc vous aurez l'occasion éventuellement d'ajouter des éléments. Et voilà, donc passer assez rapidement sur ces points-là, on y reviendra tout à l'heure dans le débat. Et sur les enjeux, donc un enjeu d'approfondissement de la connaissance du patrimoine culturel, peut-être aussi centraliser les informations déjà existantes, savoir un petit peu ce qui s'est déjà fait en termes d'inventaire et diagnostic. Et ensuite, un enjeu assez important de préservation d'exploration, donc notamment tout ce qui est patrimoine bâti, avec éventuellement les terrasses, les murs de la chambre, tous les éléments un peu caractéristiques du territoire. Et dernier point, le développement des pratiques urbanistiques et architecturales durables qui est sorti assez fortement au travers de l'enquête. Donc, troisième grande thématique, donc cette fois-ci, c'est aussi une thématique environnementale, mais plus sur les ressources environnementales. Donc, au niveau des atouts, on a notamment le réservoir en eau potable du littoral qui est à protéger, c'est le principal atout à ressortir. Et au niveau des faiblesses, tout ce qui est gestion, assainissement, déchets, c'est ressorti à la fois dans le diagnostic et dans l'enquête, donc des éléments à améliorer. En termes d'opportunités, il y aurait un potentiel de production d'énergie renouvelable, donc notamment la filière bois, encore une fois c'est quelque chose qui est ressorti dans l'enquête. Et au niveau des menaces, on a principalement l'aggravation possible des pollutions des eaux, puisque justement les problématiques de manque d'assainissement ont des impacts négatifs sur la qualité des eaux. En termes d'enjeux, on peut souligner la préservation de la ressource en eau, qui est vraiment, on va dire, l'enjeu principal pour ne pas se cacher du territoire, avec tout ce qui peut être associé, notamment l'écosystème aquatique. L'incitation des habitants à de nouvelles habitudes en matière d'énergie, donc pratiques plus économiques, éventuellement aussi la promotion et l'aide au développement des énergies renouvelables. Voilà, on peut aussi souligner éventuellement un travail de sensibilisation, puisque c'est l'une des thématiques de travail des partenaires régionaux. Donc, sur... sur les activités économiques et sociales. Donc en atout, on a l'attractivité du territoire, notamment due à une offre d'activités de nature qui est importante. Donc on a les stations de moyenne montagne, les sentiers de randonnée, éventuellement les potentiels de canyoning ou tout ce genre d'activités. Et on a l'emploi agricole, que je disais tout à l'heure, qui est encore fort dans les zones montagnardes. En faiblesse, on a à l'inverse une pression foncière qui ne favorise pas la reprise des exploitations agricoles par les jeunes agriculteurs et un tissu d'entreprise peu structuré voilà, qui peut éventuellement nuire au développement du territoire. Sur les opportunités, une opportunité notamment en lien avec la création du parc qui est la labellisation, puisque la marque parc peut permettre de labelliser des produits aussi bien agricole que l'artisanat, différents produits locaux. Voilà, donc, il y a d'autres labellisations, mais le parc peut être une opportunité pour labelliser à l'aide de la marque. Autre opportunité, le potentiel d'activité de pleine nature, avec notamment la possibilité de profiter de cette attractivité pour sensibiliser les pratiquants à l'environnement. C'est-à-dire dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui vont... qui viennent pratiquer sur le territoire différentes activités sportives, il est possible sur les sites d'escalade, par exemple, d'avoir une approche de sensibilisation le samedi après-midi ou les dimanches. En termes de menaces, il y a notamment les conflits d'usage, qui sont ressortis aussi au travers de l'enquête. Voilà, donc, un peu le pendant de l'attractivité du territoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pratiquer, il y a des activités de la nature, il y a la chasse, il y a aussi des activités motorisées, et donc l'augmentation des conflits d'usage, d'où une pertinence de la création d'un parc qui est une structure qui peut permettre de créer une médiation entre les différents acteurs et utilisateurs de l'espace. Et autre menace, la diminution des emplois et commerces de proximité, qui, dans la mesure où il y a déjà une certaine faiblesse en termes d'offres de services marchands sur le territoire peut à terme être une menace assez importante. Donc, en termes d'enjeux, comme vous le voyez en vert, les enjeux qui ont été insérés à partir de l'enquête, donc il y a eu beaucoup de propositions de votre part au niveau des enjeux des activités économiques et sociales. Donc on a par exemple le développement des filières agricoles alternatives et biologiques, donc notamment la filière des polyagricoles ou aromates. On peut aussi souligner la mise en place d'une gestion concertée des activités de pleine nature, donc comme je vous le disais, afin de trouver un équilibre entre ouverture au public, c'est-à-dire utiliser le potentiel de l'attractivité du territoire, tout en préservant les espaces les plus sensibles, en tout cas en veillant à protéger les espaces qui, par rapport aux espèces floristiques et faunistiques présentes, le nécessite. Et ensuite, le développement des produits labellisés, comme je vous le disais, qui peut être un axe de développement intéressant pour le territoire. Donc, avant-dernier champ, donc la croissance démographique, qui est un petit peu en lien avec l'aménagement du territoire et l'évolution du territoire. On a aujourd'hui un territoire qui est plutôt préservé par les grands aménagements routiers ou touristiques, qui est d'ailleurs plutôt difficile d'accès, il n'y a pas de grandes voies de communication qui permet de monter sur le plateau. Ça c'est plutôt un atout, en tout cas dans l'optique de parc naturel régional, puisque ça évite qu'il y ait justement trop de fréquentation et ça évitera au parc d'avoir un travail trop important de maîtrise de la fréquentation à mettre en place. Au niveau des faiblesses, on a une forte croissance démographique qui entraîne des besoins en logement et en phénomène de pression foncière. Là, on peut lier la pression sur le foncier agricole, mais aussi toutes les thématiques autour de l'urbanisation et de sa gestion. Au niveau des opportunités, on peut souligner le fait que les espaces urbains et ruraux soient complémentaires, avec justement les urbains entre guillemets qui viennent utiliser les espaces ruraux le week-end et qui pourraient être intéressant de faire un travail de sensibilisation des urbains entre guillemets qui viennent faire quelques activités sportives dans les prairies le week-end. Au niveau des menaces, encore une fois, l'aggravation et l'adaptation du niveau d'équipement et de service aux populations peut à terme, je dirais, menacer assez fortement le territoire. Donc, au niveau des enjeux, on a l'enjeu de la maîtrise de la consommation de l'espace. Donc, essayer, comme le disait Jacques tout à l'heure, peut-être en collaboration avec la SACER, de préserver un réservoir de foncier agricole, puisque souvent, même si effectivement il y a une partie du territoire qui peut être en déprise, il y a d'autres parties du territoire qui sont en pression foncière, c'est un peu la difficulté aussi de gérer sur un territoire des phénomènes qui sont parfois opposés. Mais en tout cas, il y a, un travail de réflexion, de connaissance des évolutions de pression foncière sur le territoire dans le but de les maîtriser. Donc ça, c'est aussi ressorti dans l'enquête, c'est quelque chose d'assez important. Il y a aussi des éléments sociaux qui peuvent ressortir, comme le fait de permettre à chacun d'avoir accès au minimum vital. Donc, du fait, encore une fois, de la pression foncière et d'autres éléments, mais le prix du logement, par exemple, peut être amené à augmenter et rendre plus difficile le fait de trouver du logement pour les autochtones, qui aussi ressortir en enquête, et ce qui ressort souvent sur les territoires de parc, sur les territoires attractifs, qui attirent souvent des personnes aux revenus élevés, et les autochtones qui ont des revenus un petit peu plus faibles ont du mal, peuvent avoir du mal à trouver des logements. Donc le parc, c'est une démarche un peu globale pour essayer de ménager une place pour tout le monde. Donc dernier point, encore une fois en relation avec l'agriculture, préserver l'espace agricole de l'urbanisation, mais aussi préserver les espaces naturels évidemment. Voilà donc différents enjeux à souligner. Donc dernier champ thématique, donc la gouvernance du territoire, avec en atout, premier atout, je pense, la pratique de la concertation. Vous le voyez aujourd'hui, le syndicat mixte a privilégié depuis des années, on n'a pas fait la diapo, mais a privilégié une démarche vraiment qui vise à associer un petit peu tout le monde à son projet. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui un listing de personnes, des contacts, d'ailleurs qui nous ont permis de lancer l'enquête. C'est déjà ça de gagner et ça permet de regrouper les énergies et d'avancer plus vite. Il y a la forte volonté politique qui évidemment a permis de lancer et surtout une fois lancé de soutenir le rythme d'avancement du projet. En faiblesse, alors encore une fois, il y en aura peut-être d'autres à souligner, mais on peut parler du manque d'outils d'information et de sensibilisation, même si les outils sont en train d'être mis en place par le syndicat mixte. Je crois qu'il y a une lettre qui a été créée récemment. Voilà, c'est un show qui a été créé récemment. Des efforts déjà qui ont été faits dans ce sens depuis 2004, puisque c'était une faiblesse qui avait été repérée en 2004. Au niveau des opportunités, peut-être, justement, profiter de cette participation des acteurs du territoire pour la canaliser, utiliser cette énergie pour créer justement un projet collectif. En termes de menaces, éventuellement, la difficulté, ça va être justement de formaliser correctement l'organisation du PNR et trouver des modalités je dirais, de participation de tous les acteurs et toutes les structures au projet. Donc, en termes d'enjeux, on peut souligner l'enjeu de mutualisation des compétences pour mener à bien des projets communs. Donc, encore une fois, trouver l'organisation pertinente pour avancer collectivement, que ce soit en termes de moyens humains, moyens financiers, mais aussi de participation de bénévoles. Aussi, favoriser la concertation et la contractualisation entre les acteurs publics et privés, éventuellement, s'il y a des possibilités de partenariat public-privé. Globalement, les principaux enjeux qu'on peut souligner, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans le débat. Voilà, donc je vais revenir au début.
Donc, est-ce qu'il y a peut-être des remarques à faire? Donc l'idée, c'est de, que ce soit votre domaine de compétences principales ou pas, hein, c'est de... Éventuellement, s'il y a des formulations de phrases qui vous ont choqué, qui ne vous semblent pas pertinentes sur le territoire des Céalpes, ou à l'inverse, s'il y a des choses qui vous semblent pertinentes à compléter, ou s'il y a des manques qui vous ont semblé criants, ben, n'hésitez pas à...
Je suis d'accord et j'ai compris la première partie, donc effectivement un paysage ce n'est pas que la nature, c'est ce que l'homme en a fait, je crois, on est d'accord. Mais par contre, la dégradation des paysages, elle existe. Quand on standardise l'habitat des hommes, pas l'habitat des espèces, mais l'habitat des hommes, quand on standardise et qu'on voit partout les choses et que parfois même ça n'a rien à voir avec le territoire, on dégrade le paysage. D'accord. Donc les habitats, on parlait des habitats des espèces, ou des habitats
naturels.
D'accord. Attendez, levez la main, parce que j'en ai une là, puis après je reviens vers vous. Hein?
Oui, c'est une petite agriculture raisonnée quand on écoute. Quand vous dites agriculture raisonnée, vous entendez quoi par
ce ça dépendra un peu de vous. Parce que l'agriculture raisonnée, la fourchette peut être assez large. Et l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a différentes formes d'agriculture possibles. Il y en a de toute façon, enfin tout le monde ne pourra pas faire du bio. Et on sait que de toute façon, et c'est déjà démarré, enfin moi je en début c'est la mission chez vous, donc on ne connaît pas les pratiques dans le détail, on n'a pas été avec nos boss sur le terrain, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée c'est de voir comment on peut augmenter le nombre d'exploitations qui peuvent prendre en compte de manière plus intégrée les enjeux sur l'environnement. Voilà, donc raisonner, c'est un peu ça. Après, on y met un peu ce qu'on veut. C'est pas au sens juridique ou au sens réglementaire, mais c'est pas pour se défausser, c'est plus pour dire comment on peut. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce qui se passe? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la première question à poser aux exploitants agricoles. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait un peu plus d'exploitants qui arrivent dans cette direction, puisqu'on est dans un parc naturel régional et que on ne serait pas très bien vu si on ne faisait pas mieux que ce qui se fait de l'autre côté et qui n'est pas un parc naturel. Donc il n'y a pas d'arrière-pensée ni de définition. On verra en commission de travail ce qui peut être proposé. Je vais vous donner la parole après, vous donner une main si c'est possible. Alors, ce que dit le collègue derrière les deux piliers, c'est que à côté des 60% d'espaces naturels identifiés comme de grande qualité, puisqu'ils sont classés, ils sont inventoriés dans le dans la vignette, dans une des deux types de vignettes, il y a aussi des espaces reconnus d'intérêt communautaire, donc avec un niveau de qualité et des outils de gestion qui vont au-delà d'une vignette. Une vignette, c'est juste dire, voilà, c'est très bien, là, c'est, il faudra le protéger, c'est très intéressant. Il n'y a pas d'action, alors que derrière Natura, il y a un plan d'action. Donc, ce que disait monsieur, c'est qu'il y a un nombre, sauf parce que je me trompe, il y a un quart de l'espace du territoire qui est identifié comme un espace de grand intérêt communautaire en termes de d'environnement. C'est bon, c'est ça. Alors, là.
Je m'interrogeais juste pourquoi vous disiez que tout le monde ne pouvait pas faire du bio. Vous avez dit tout le monde ne pourra pas faire du bio. Je me posais la question de pourquoi vous disiez ça.
Ouais, parce que vous pensez que tout le monde peut faire du bio.
Si il y a une ambition de
je n'ai pas le parti pris dans un sens ou dans un autre. Je suis un pragmatique. Et moi, certains économistes m'ont dit que si tout le monde fait du bio, le bio s'écroulera parce que on ne pourra plus, économiquement, le modèle ne sera, enfin, il faudra inventer un nouveau modèle économique agricole. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas économiste agricole. Donc, il faut maintenir des différenciations en termes de production. Voilà. Et,
il y a un grand débat là-dedans.
Voilà. Donc, je retiens le terme, enfin, le fait que l'agriculture bio est raisonnée, vous voulez bien y travailler à la prochaine commission. Absolument. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que cette première grille là, qui est sort du four, hein, elle est sortie hier soir. Les impressions ont été faites même dans le village, dans le milieu, donc c'est pour vous. Vous aurez accès sur notre site internet aux documents, donc vous pourrez à loisir un petit peu y travailler davantage. Et le 13, il y a une synthèse un peu comme celle-ci, mais qui sera un peu élargie parce qu'il y aura d'autres acteurs que vous, donc on prendra une demi-heure, trois quarts d'heure pour rebaliser ça. De cela, on va déduire ce que nous on appelle un arbre d'objectifs, c'est-à-dire on va essayer de classer les enjeux en fonction de quelques grandes familles. Et après, vous allez travailler dans les commissions, dans les quatre commissions que je citais tout à l'heure. Une commission, il y aura deux commissions de travail sur l'environnement et les ressources, hein, deux paquets. Un paquet sur l'économie, un paquet sur le social et le culturel. Et donc, à cette occasion, pendant les deux heures de travail, vous pourrez revenir avec la réflexion que vous aurez pu avoir entre aujourd'hui et le 5 mars et éventuellement proposer des ajustements. A priori, les premières commissions, nous on a suggéré que les premières commissions elles soient accrochées à la journée du 13 mars, donc du coup, a priori, ce sera des commissions assez larges avec beaucoup de monde dans un premier temps. Par contre, il y aura une deuxième session de travail où là on demandera aux gens qui viennent d'abord de ne pas venir à 4 pour un organisme. Hein, on ne fait pas d'ostracisme, mais je préfère par exemple. Pour l'ONF, qui sont mes amis, il n'y a pas de problème. L'ONF, ce serait bien qu'à la prochaine, aux commissions, il y en ait un en commission environnement 1, un autre en commission environnement 2 et un autre à la commission économie, par exemple. De manière à ce qu'on équilibre un peu les choses. Mais en tout cas, les commissions, l'idée, c'est quand même de travailler et de se responsabiliser. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on fasse de la créativité, hein, je suis pas contre, mais on est en train de rédiger un document qui va faire date. Et sur lequel ensuite vous allez travailler tous ensemble pendant 12 ans. Donc il faut des gens qui viennent et qui s'inscrivent dans une rigueur de participation régulière en fait à l'ensemble des travaux qui auront lieu. Donc je pense qu'à 7 et 13 mars on aura beaucoup de monde, on aura aussi enfin, beaucoup de monde. On aura un minimum, je pense, de vous, plus les habitants, plus les conseillers municipaux, donc on sera plus nombreux. Par contre, dans les commissions qui suivront, je pense qu'on sera un peu moins nombreux. Donc petit à petit, c'est malgré tout de conserver. Alors si on est trop nombreux, ben, les commissions elles se diviseront en ateliers. C'est-à-dire que la prochaine réunion, peut-être que la commission environnement va dire on ne peut pas travailler, on est trop nombreux, on voudrait se réunir à une dizaine ou une quinzaine, travailler uniquement sur l'énergie ou uniquement sur l'eau. Voilà, et donc on s'est fixé un rendez-vous, on a levé la main, voilà. Donc on va improviser à la prochaine réunion. Donc petit à petit, c'est un peu ça. Et ces commissions, en fait, elles vont faire des propositions que nous, on est en train de synthétiser en termes de, d'écriture. Donc on va petit à petit faire une écriture de synthèse, c'est-à-dire les 150 stylos que vous aurez, on va les transformer en un seul stylo, enfin deux stylos, on va travailler une rédaction la plus consensuelle. Forcément, elle ne sera pas parfaite, parce qu'on ne pourra pas écrire ce que tout le monde veut, et en même temps, à des moments, on fera des consensus, des conciliations de termes, d'objectifs. Mais on proposera ça une deuxième fois dans les commissions, et puis une troisième fois, et après, c'est le syndicat mixte qui tranchera, qui validera. Voilà. Donc c'est le seul processus possible qu'on a proposé. Donc petit à petit, aller comme ça à la participation des acteurs. Et je pense qu'à terme, il faudrait que certains d'entre vous, peut-être, soit se regroupent, soit... il y a un mode d'organisation, il y a un mode de travail qui va être peut-être différent de celui qu'on est en train d'utiliser pour rédiger. Donc il faudra réfléchir à comment faire vivre ensuite la charte et comment faire en sorte que vous continuiez à être associé et à participer aux travaux de la mise en œuvre en fait de la charte.
Le travail des commissions, ce sera ici?
Non, alors on croise les doigts, on espère avoir un super équipement. C'est ça votre question? C'est super équipement. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on puisse diviser en quatre l'assemblée plénière. Donc on cherche un lieu où on peut avoir, en plus de la salle plénière, quatre salles de réunion de travail. Sachant qu'il y a un deuxième objectif, c'est qu'on puisse, pendant la procédure d'écriture, on puisse tourner aussi dans le parc, parce que là on est quand même très proche du littoral, faut penser aux copains qui sont un peu plus haut là-haut, donc on fera aussi, on essaiera de trouver un endroit pour travailler. Donc petit à petit on va tourner, en sachant qu'il y a la réunion cantonale aussi, donc on fait en sorte de ne pas trop, de faire en sorte à chaque fois d'avoir une oreille maximale s'il y avait des acteurs sur l'ensemble du territoire. Oui,
quel outil de communication voulez-vous adopter? Parce que là, vous êtes satisfait du nombre de personnes qui sont là, mais par rapport au PNR, il me semble qu'on est relativement peu. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que c'est. Et est-ce que ça va se développer et comment?
Alors, sur l'action de communication des Français, je répète la question. Je résume la question, c'est quel processus d'information et de communication plus large ou plus... On imagine dans les semaines qui viennent, et puis peut-être à terme, puisque là, on n'est peut-être pas suffisamment représentatif de la totalité du territoire, parce qu'effectivement, géographiquement, on est peut-être là. Par ailleurs, on a surtout visé les socioprofessionnels, donc on n'a peut-être pas la représentativité de tous les corps sociaux du territoire. Donc la question, c'est quelle forme de communication on va adopter. Donc, mais François, Raphaël, vous m'aidez parce que, voilà, alors, il y a premier niveau.
Je pense que dans une première partie, on a mis en place les réunions cantonales, donc qui se dérouleront du 31 janvier jusqu'au 6 mars. Si vous avez de quoi noter, je vais vous l'éviter. Donc le 31 janvier 2009, dans le canton de Courtegoule, à Gréolière, à la salle polyvalente à 15h. Le 6 février 2009, canton de Savanie, pardon. En fonction de là où vous êtes, donc 6 février 2009, canton de Savanier, plus Grasse, c'est effectivement on a regroupé et le canton et la commune de Grasse, donc il se déroulera à Savanier de pied, normalement au gymnase à 17h. C'est le collège, le haut du collège, exactement. Ensuite, le 7 février, canton de Saint-Auban, donc sur la commune d'Andon, à la salle polyvalente à 14h30. Donc à Andon, oui. Le 5 février, canton de Bar-sur-Loup au Bar-sur-Loup, donc à la salle Francis-Ponge, à 18h30. Le 14 février, canton de Puget-Théniers, donc à Saint-Antonin, à la salle polyvalente à 14h30. Donc effectivement, ce que disait M. Carillo par rapport à la représentation et aussi ce que vous disiez là à l'instant, la représentation n'est pas effectivement dans la totalité du territoire, parce que là je vois qu'il y a aucune personne représentée du canton de Puget-Théniers. Effectivement, il y a trois petites communes qui sont dans le nord-est de ce territoire, donc effectivement l'information va être plus importante peut-être dans la partie est du territoire des préateux. Ensuite, le 26 février, canton de Carrosse, à Carrosse, à la salle Julien Gréco à 18h. Le 27 février 2009, canton de Vence, à Vence, à la salle du conseil municipal à 18h. Et pour terminer, le 6 mars, dans le canton de Roquestéron, à Gilette, au foyer de Val, à 17h. Donc, pour répondre à M. Barbali, effectivement, c'est un des moyens de communication, il y en aura d'autres. Donc, on va mettre en place aussi un site internet pour pouvoir gérer correspondre plus facilement. Donc là, pour l'instant, effectivement, on communique avec par l'intermédiaire du cabinet d'affaires. Mais j'espère, oui, mais très prochainement, je pense qu'on pourra effectivement communiquer sur le site internet. Par contre, vous avez eu tout à l'heure à l'entrée un flash info. Donc c'est notre premier document qui représente un petit peu l'historique. Donc c'est un document, je dirais, c'est un résumé de l'étude avec la question de qu'est-ce qu'un PNR et puis avec un petit historique de ce PNR. Voilà, donc bon, j'espère qu'il y aura d'autres outils de communication. Au départ, pour pas que je facile, comme je disais, on est deux dans l'équipe technique, les élus, les présidents et les élus du bureau, entre autres, se démènent aussi, donc ça va être un investissement, et c'est ce qu'on vous demande aussi par rapport à l'information et de la transmettre. Il y a aussi le bouche à oreille qui est très important, donc à vous aussi, puisque vous êtes représentants, fédérations, les associations, les agriculteurs, les privés aussi, les consulaire, à vous aussi de transmettre l'information sans conserver pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être au courant de ce projet et surtout de participer à ces réunions, entre autres les réunions cantonales et bien sûr le forum pour le 13 mars.
Merci. C'est bon, c'est une réponse qui vous satisfait, non?
Oui, non, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une partie des personnes du canton qui jusqu'à maintenant n'ont pas eu l'information. Et par exemple l'enquête, ça aurait été bien que tout le monde, que ça passe par voie de presse ou quoi.
On a prévu pour la...
Alors en même temps, peut-être que non, on a...
C'est passé par voie de presse, alors c'est pareil, on n'a pas eu le représentant de Nice Matin est là quand je lui ai envoyé une enquête et donc il a répondu et à partir de là il a fait effectivement un article dans Nice Matin. Après, effectivement sur le nom il y aura toujours des personnes qui ne seront pas prévenues. C'est très difficile. Ou bien on prend les lignes de la poste et on envoie un courrier effectivement à tout le monde, mais bon, ça demande aussi des moyens financiers assez importants. Pour l'instant, au départ, on est assez limité. Donc, je crois que... plus de 500 enquêtes, hein, je crois qu'on est arrivé à combien? Plus de 500, bon, 500. Donc, effectivement, ça ne représente pas tout le territoire. On l'a envoyé à une grande partie des sociétés professionnelles du département des Alpes-Maritimes. Donc, je comprends tout à fait et je comprends aussi certaines réactions que j'ai eues tout à l'heure en disant j'ai pas été prévenue, j'ai été prévenue hier soir ou quoi que ce soit. Je m'en excuse. On fera en sorte que les choses progressent, mais c'est pas toujours facile. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas été effectivement prévenus, que vous entendrez peut-être plus tard par rapport à ça, je crois qu'il faut qu'on mette peut-être notre susceptibilité, moi-même la première, hein, puisque quand je reçois ça, je me dis il y a des lacunes. On va essayer de les combler pendant tout le temps de la préparation de la chasse pour que tout le monde soit effectivement informé à peu près le maximum de territoire.
En attendant la création du site internet du parc, de toute façon, ça va ouvrir sur notre site internet, donc www.sfr.fr. Vous cliquez dessus, on verra avec l'informaticien, on mettra un clic sur le parc naturel régional Péal-Cadur et vous aurez au fur et à mesure les documents, ceux qu'on vous a présentés, les calendriers, les dates, au fur et à mesure que vous en notamment les éléments, mais elles sont toutes les deux et tout en plus, elles sont hébergées même pas dans leur retour. Donc, je pense que c'est un élément important. Il faut progressivement, mais je pense que ce que disait François est important, c'est qu'il faut que vous-même soyez un peu des ambassadeurs du projet, donc n'hésitez pas à en parler, ou à renvoyer les gens à François, Et puis je pense que les réunions cantonales que j'ai affichées pendant François de la liste, je pense qu'elles vont aussi permettre de donner une information complémentaire. Il faut aussi que l'ensemble des élus, que tous les conseillers municipaux ne sont pas toujours au fait. Souvent le maire est au courant, le premier adjoint, et ça ne va pas jusqu'à tous les conseillers municipaux. Donc il faut que chacun, dans chaque groupe social, en fait, petit à petit, prenne la mesure de cet enjeu. Vous avez une question, monsieur ?
Oui, donc. En sort de la communication, c'est peut-être un peu...
Je fais un résumé de la question.
Non, mais bah, c'est bref. On parle de l'eau, on parle du soleil, et
dans les documents, donc par rapport aux atouts, on parle de l'eau, on parle du soleil, et je pense qu'il y a presque une question à soulever, c'est par rapport à la séquestration du carbone. Est-ce que ça peut être un enjeu pour le parc naturel régional ?
Oui, c'est de toute façon une attente, on va nous attendre au tournant là-dessus. Bon, en même temps ici, on n'est pas le territoire le plus émetteur de CO2, mais en même temps, je pense qu'on verrait mal que le parc, dans son projet, ne soit pas en écho par rapport à un plan climat ou par rapport à des démarches sur les transports et les déplacements, sur la modernisation de l'habitat en termes d'isolation, etc. Donc, je pense qu'il y a probablement des choses à faire sur cet axe-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être que la commission sur l'environnement, on va la dédoubler pour qu'il y en ait une qui concerne notamment la question des ressources et la question de la pollution et de la gestion de l'émission CO2. Les gaz à effet de serre, évidemment. Je reviendrai vers vous, mais il y avait des mains qui s'étaient levées. C'est comme ça, fait trois fois qu'on est du côté. Oui, monsieur, allez-y. Je ne peux pas venir vers vous, donc si vous pouvez vous lever.
Voilà, j'ai une question sur le terme.
Oui. Moi, je ne vais pas répondre à la place des élus qui, à un moment donné, effectivement, sont ceux qui prennent les décisions en conseil syndical, puisque le syndicaliste, c'est lui qui a la responsabilité devant l'État et les cofinanceurs et devant le ministère, c'est lui qui a la responsabilité. Donc, s'il y a des bêtises, c'est sur ses droits qu'on va taper. Maintenant, ils ont besoin d'être aidés par les acteurs socio-professionnels, y compris les agriculteurs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme il y a une structure juridique de gestion de l'argent public qui est le syndicalisme, pour faire court, il faut qu'il y ait une organisation qui permette d'associer les autres acteurs, dont les agriculteurs font partie, de manière à ce qu'il y ait un certain d'éléments qui remontent au-delà des exercices de pression habituels que certains corps métiers connaissent bien. Il y a du lobbying, voilà, donc ça, c'est pas à moi d'organiser le lobbying des acteurs. Par contre, je pense qu'il y a une organisation, le fait de participer à des commissions de travail, le fait d'être des instances consultées une fois par an dans un forum, le fait d'être consulté au moment de l'évaluation et du bilan, puisqu'il y a un bilan régulier, c'est pas qu'au bout de 10 ans qu'on fait le bilan, il y a aussi des instances. Donc le fait qu'il y ait cette expression de besoin ou d'attente de la part des socioprofessionnels, des acteurs en général, donc c'est pas que, je pense que ça passe par ces canaux-là. Bon, on peut essayer d'affiner, mais le grand principe, ça sera ça, parce que, effectivement, on peut, à la différence de certains projets particuliers, comme les groupes d'action locales, où on a une co-gestion publique-privée plus importante, pour gérer un parc naturel régional, l'outil obligatoire, c'est le syndicalisme. Il n'y a pas d'autre solution que les seuls outils possibles aujourd'hui. En France. Donc, c'est pour ça que d'autres formes d'associations se sont développées à côté pour pouvoir être sûr. Mais ça, ça se fait avec l'habitude de travail, de pratique, la confiance. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont, faut pas non plus sans arrêt écrire, rédiger, faire des structures en plus, etc. Donc, il faut aussi créer un climat de travail, de confiance. Il y a plein de parts où ça marche comme ça. Donc, faut pas tout écrire. Par contre, le fait que les consulaires soient associés, donc les représentants des chambres agricoles sont représentants des différents mouvements syndicaux agricoles, donc je pense que c'est un moyen quand même de faire remonter un certain nombre de choses. Vous êtes d'ailleurs de toute façon associés à la construction du projet et ensuite à son suivi par les commissions, par un forum. Donc ça c'est à l'effet,
donc on est un peu à la discussion.
c'est typiquement un des sujets de travail, de réflexion et d'échange qu'il faut avoir. Et ça, ça va se faire avec le temps. Alors, si aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, il y a déjà une pratique qui se fait, d'échange, de dialogue, il y a 45 parcs naturels régionaux, et dans les 45, comme on est en surrural, il y a des agriculteurs, et ça marche. Il y a des fonctionnements, il y a même des structures, les gens en Vercors, la PAC, c'est une association de 80 agriculteurs, qui sont une association partenaire du parc avec laquelle les gens font le travail. Le CIVER, qui est le syndicat du Bleu du Vercors, c'est aussi une association d'agriculteurs. Donc, ils ne sont pas, ce sont des partenaires, il faut formaliser simplement un peu les partenariats. Donc, il ne s'agit pas de spolier tel ou tel acteur. C'est un mauvais conception, c'est un autre. Non, non, mais d'accord, mais moi je vous dis aujourd'hui, réglementairement, c'est un parc national ne fonctionne absolument pas comme un parc naturel régional. Un parc national, c'est un établissement, c'est anciennement un établissement public. Aujourd'hui, le personnel et le personnel d'État, il se trouve que les collectivités sont davantage associées aujourd'hui sur le parc national. Sur le parc national, on la partie autour du cœur du parc national, mais ça n'a rien à voir. Enfin, il se trouve qu'actuellement, le parc national, quand c'est peut-être la confusion, actuellement, les parcs nationaux sont en train de s'inspirer des modalités de fonctionnement qu'il y a dans les parcs naturels régionaux et d'élaborer des chartes. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas que sanctuariser la totalité des espaces et qu'il fallait travailler avec d'autres acteurs. Donc, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Les parcs naturels régionaux ne peuvent pas s'inspirer, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs ni les mêmes statuts. Il y a peut-être quelques similitudes sur 3-4 sujets, des points de vue, très mais vraiment, c'est deux outils complètement différents.
Aussi ensemble de demander que la Chambre d'agriculture participe au syndicat mixte. Mais là, il y a un travail à faire en commission. Il va y avoir des conditions, des conseils. C'est là que, de toute façon, il va falloir se faire entendre et travailler ensemble. Personnellement, je pense que le PNR, c'est un beau vélo. Il faut trouver le coureur, quoi. Le bon coureur. Et le coureur, on le fera ensemble. Mais de toute façon, c'est ensemble qu'on le fera, ce parc, et les agriculteurs ensemble. Et dans le fait de faire cette association, elle s'est voulue un syndicat à la politique au départ, elle le restera, et elle a la vocation de réunir tous les agriculteurs et toutes les idées agricoles qui peuvent s'intégrer au PNR. Voilà. Et je crois que l'agriculture aujourd'hui, elle peut très bien rentrer dans les grands défis qui sont aujourd'hui nationaux, ou quoi, on parlait de blocage du carbone, on peut aussi parler du grenelle de l'environnement, mais à la fois localement, elle peut avoir un effet. Je ne vois pas comment sans l'agriculture aujourd'hui le PNR peut fonctionner, je ne vois pas comment sans les forestiers le PNR, les
des pédestres, des chevaux, des balades équestres pour pouvoir fonctionner. Je ne vois pas comment le touriste, le randonneur pourra fonctionner sans ces trois choses. Et je suis agriculteur, et
là j'en profite quand même, je suis chasseur et j'attends de travailler aussi également avec les chasseurs qui sont gestionnaires de l'espace, et j'attends de pouvoir travailler avec les propriétaires qui sont des privés ou non privés pour travailler avec les forestiers aussi. C'est trois, on est quatre, et il va falloir travailler ensemble et en interdépendance, pour que ça fonctionne durablement. Et je suis ouvert à toutes les propositions, à tout discours, et je serai en commission.
J'ai déjà parlé de côté. voilà, juste...
Ouais, non, juste... Et on a... Tout le monde parle de territoire exceptionnel, mais car, je ne suis pas ici, hein, je suis venu travailler ici. Je suis agriculteur, c'est mon métier qui m'a amené ici. On parlait tout à l'heure de d'agriculture biologique, on parlait de pastoralisme. Il y a quand même ici, je veux dire, une biodiversité, un espace, des traditions d'agriculture, et au niveau de l'écologie, comparé à d'autres régions, je ne dis pas que c'est le top, mais je veux dire, comparé à d'autres régions, on a le moyen de faire des...
C'est mon téléphone.
On a besoin de faire de l'agriculture propre et en travaillant ensemble. Je dois aller chercher ma fille à la passe des heures de conduite.
C'est pour ça que je vais partir avant.
Merci.
Et pour rassurer Madame Baronne, donc, la première réunion qu'on a faite ensemble, alors qu'on n'était pas obligé avec Thierry, c'était chez toi. Hein. Ça veut dire que les cultivateurs, les éleveurs, on ne les a pas oubliés, bien entendu. La charte, on va la faire ensemble, on vous l'a dit. Et en commençant par vous, on vous l'a dit aussi. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui est nécessité pour vous peut-être, pour l'activité, c'est sûr. Mais pour nous aussi, ceux qui habitent dans le moyen pays ou le littoral, on a vraiment besoin d'agriculture de proximité. Même si elle n'est pas toute bio, comme on l'a dit, mais déjà d'être de proximité, c'est essentiellement. On a un avenir lié, qui sera de plus en plus lié avec ce qui va se passer, avec les problèmes de transport, pour être tout à fait au courant de ça. Par conséquent, n'ayez pas peur, vous serez au contraire un vrai conseil dans les commissions pour nous dire, parce que vous connaissez beaucoup mieux les problèmes que nous-mêmes. On vous dira pas.
Non, non, ça ne fait rien, ça. On a une commission.
Je repars sur la maille, il y a deux mains qui s'étaient
faites. C'est la raison pour laquelle on a fait passer une feuille pour se faire déjà une idée de la représentativité de l'ensemble des... Parce qu'on a besoin de rééquilibrer. Donc en fait, donc après, nous, on va faire le chèque des gens qui se sont inscrits pour la journée du 13 mars, oui. On va regarder l'équilibre et on va très probablement à certains d'entre vous dire d'aller à une autre commission parce qu'on manque de représentants de tel ou tel aspect. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu de pratique directive de l'accord. C'est un peu risqué, puisque on a quand même besoin de un peu tout le monde. Après, je pense que c'est mais je comprends ce que vous voulez dire. Je partage de manière très concrète et opérationnelle à très court terme pour mes commissions, pour qu'elles fonctionnent bien et qu'elles soient équilibrées, qu'on n'écrive pas 20 pages sur l'agriculture et zéro sur le tourisme, on en irait un peu, parce que je trouverais qu'il y a un déséquilibre. Du coup, il faut qu'on vérifie dans les commissions, on aura quand même un petit peu tous les corps de métier ou les groupes sociaux un peu représentés. Après, sur la gouvernance et la mise en pratique, j'ai pas de recette. Je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse à une espèce de la représentation ou de la représentativité, mais en tout cas qu'on puisse effectivement éviter l'hyperprofit ou le déséquilibre dans certains fonctionnements de commission. Et j'ai pas de réponse, il faut qu'on travaille ensemble là-dessus et qu'on voit.
C'est pour cela qu'on a essayé de nous
le bureau, les élus, de bouger et d'aller sur tout le territoire. On ne peut pas faire autrement, parce qu'on explique aussi ce métier, au cabinet d'affaires, la configuration de notre territoire, d'est en ouest avec les massifs, l'accès n'est pas du tout facile. Donc il y a aussi l'application de chacun, c'est-à-dire que sur le nombre, bon, on est 80, il y a 1500 voix, donc ça veut dire qu'il y a des personnes ou bien ne sont pas intéressées, ou bien ne peuvent pas, et il y en a d'autres, on peut leur envoyer 10 fois, 20 fois le même questionnaire, ils ne se déplaceront pas. Donc c'est assez difficile. Encore une fois, il y aura effectivement des carences par rapport à la représentation de chacun. Donc nous, syndicalistes, c'est-à-dire élus et techniciens, on va faire en sorte d'aller sur le territoire, c'est-à-dire déjà par rapport aux réunions cantonales. Donc on va sur chaque canton qui sont représentés sur ce territoire, et après en fonction des thématiques, des commissions, on ira en sorte d'équilibrer la représentation de ces réunions. Mais encore une fois, c'est très difficile. Il y aura obligatoirement des personnes qui ne seraient pas représentées. Moi, je vous demande, on pourrait être sans, je dirais, au niveau de la structure, on manquera effectivement au niveau de la formation, donc on n'aura jamais tout le monde. Donc, à vous aussi de nous aider. En fait, on compte sur vous, c'est parce que vous êtes sur le terrain, nous, on est dans les mairies ou dans nos bureaux, donc c'est quand même assez difficile. Donc, à vous qui côtoyez toutes les personnes déjà par rapport à votre corps de métier, de votre activité, de pouvoir effectivement mobiliser ces personnes.
Je crois que j'ai jamais ça en tant que parc naturel régional. J'en ai connu qu'un, c'est le parc naturel régional de Corse, ils avaient 70 contrats emploi solidaire. Mais ils ont un territoire et des montagnes très compliquées, donc il y avait une question.
Nous avons dans notre périmètre un observatoire d'astronomie, un observatoire professionnel en astronomie. Sur le site de Palerme, je ne sais pas si tout le monde le connaît, sur les communes de Rousson et de Piquière, où il y a également aussi beaucoup d'astronomie amateur. Or, et cette région, notamment le site là-haut que je nomme, le site de Palerme, est très propice aux observations astronomiques, qu'elles soient donc professionnelles ou amateurs. Or, ce site est de plus en plus menacé par la pollution lumineuse. Des villages, qui se sont venus à mon point, on met les lampadaires dans le rond-point, mais aussi et surtout menacés par la pollution lumineuse de toutes les communes littorales qui injectent effectivement des gigawatts dans le ciel. Alors, est-ce que ce parc, est-ce que ce PNR pourrait avoir un de ses objectifs, la défense et la préservation de l'environnement et du ciel nocturne, et si oui, pourrait-il avoir des moyens pour essayer de limiter la pollution lumineuse des communes avoisinantes qui ne sont pas intégrées dans le parc.
Je vais essayer une réponse qui n'engage que moi, et puis après je vais faire la carte au début. Première chose, vous ne seriez pas le premier à travailler sur cette question de la pollution lumineuse, puisqu'il y a plusieurs autres chartes, notamment dans les préalpes du Nord, qui travaillent sur cette question-là. Alors, moins pour des raisons d'observation du ciel nocturne que pour des raisons de préservation d'un certain nombre d'habitats, notamment d'oiseaux nocturnes. Donc, ça c'est une offre, c'est un sujet, mais c'est vrai que... Donc, voilà. Donc, moi ça me paraît un sujet tout à fait intéressant. Après, il y a deux manières de faire. La première, elle concerne l'action possible avec les communes du territoire, puisqu'en fait, les communes du territoire, elles s'engagent dans la charte, et s'il y a une orientation dans la charte qui dit nos communes nous engageons à travailler dans la décennie qui vient à moderniser ou mettre des systèmes d'éclairage tournés vers le sol et pas tournés vers le ciel, effectivement ça ne sert pas à grand chose d'éclairer le ciel. Donc on s'engage sur un programme, peut-être sur des sites qui veulent le faire. Donc ça peut tout à fait être un programme d'action. Il faut le discuter avec les communes là, dans les mois qui viennent pour voir ce qui peut être fait, identifier peut-être des secteurs plus problématique que d'autres, hein, ça me semble possible. Et c'est plutôt dans la durée de la charte. Donc dans les 12 ans, ça, on peut travailler avec un ensemble, on peut travailler, on pourrait faire des discussions un peu précises, pratiques, un peu de travail avec les communes associées, voir ce qu'on peut trouver. Il y a désormais des réponses techniques et des coûts accessibles pour vos amis d'eau, échanger des matériels, etc. C'est concrètement ça dit. Après, la question du littoral. Ah, mon brave monsieur. Le brave n'entend pas, mais il va falloir plus d'une charte pour arriver à quelque chose. Mais je pense que dans 50 ans, on vous reprocherait de ne pas l'avoir fait. Donc je pense que, et je le disais au repas tout à l'heure, ça me semblerait de bonne augure d'enclencher dans le cadre des discussions, parler des Scots voisins. Mais c'est une bonne idée de commencer à dialoguer, à discuter sur ces questions-là. Parce que peut-être qu'un jour ou l'autre, il y a 10-15 ans, ça nous semblait saugrenu de travailler sur certains thèmes qui aujourd'hui sont devenus monnaie courante. Il n'y a plus personne qui, exactement, parle de développement durable. Vous en connaissez un qui ne parle pas de développement durable ? Tout le monde, n'importe quel habitant, même la mère en parle. Elle n'est pas très bien. Eh bien, elle en parle. Donc ça veut dire qu'il y a le thème de la pollution lumineuse qui paraît complètement saugrenu aujourd'hui, dans 20 ans ou dans 30 ans, comme le silence. Le silence. Quelqu'un qui disait que le silence était, avec le temps, une des raretés les plus chères, qui devrait être la plus chère au monde. Le silence. Donc, pardon.
Il y en a.
Mais il a dû reprendre le quelqu'un. Il est trop en communication pour ne pas l'avoir récupéré chez un philosophe du 18e. Non, je blague, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur ce sujet-là, il faut travailler maintenant pour avoir des résultats dans 50 ans. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler pour des générations qui n'y en manquent que dans 2 ou 3 générations? C'est ça la question. Je pense qu'il y a des gens dans cette salle qui sont d'accord avec vous. Il y en a qui peuvent se dire c'est complètement nous faute et tout. Mais je vous dis, les parcs ont le droit d'inventer, d'expérimenter et de faire des choses loufoques si ça s'inscrit dans des objectifs. Donc, je repasse la parole au jeune qui va me dire qu'il va bien s'engager là-dessus.
Juste un mot, effectivement, quand les communes, certaines le font déjà, puisque André dit qu'avant partout, ils éteignent plutôt partie de Ventartout, mais c'est vrai que quand les communes feront, grâce aux appareils de temporisation, l'économie, et quand elles verront sur leur budget ce que ça représente, dans mon canton, il y a Brian Sonnet qui le fait déjà, et ils ont gagné 20% de la dépense en ce qui concerne l'éclairage public. Donc je pense qu'effectivement, à partir de là, on peut imaginer que ça puisse être étendu à d'autres communes, en tous les cas, celles, comme vient de dire Jacques, qui s'engageront aussi pour la chasse. Ben, elles le feront nécessairement, mais ça sera uniquement les 49 communes du périmètre. Et les autres, eh bien, il faudrait que Ventartout puisse être le modèle de ce qui se fait, de ce qui pourrait se faire et qui est là aussi l'économie. Parce que, en tous les cas, chez nous, en milieu rural, il est évident que, allez, on va dire, de minuit à 5h du matin, vu le nombre de gens qui sont dans les rues, c'est peut-être pas utile d'avoir l'éclairage plein pot comme on peut l'avoir. Voilà, si on veut discuter là-dessus, et sur la base du partenariat qu'on évoque depuis tout à l'heure, ça peut être un sujet, effectivement, inscrit dans la charte, et non pas pour le fun, mais effectivement pour quelque chose qui... Enfin, je veux dire, qu'aucun veut dire l'astronomie, c'est du fun, quoi, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais en réalité... Non, mais, excusez-moi, mais c'est vrai, vous êtes un fanatique, et certainement très serré là-dessus, mais... D'autres peuvent prendre ça comme tout à fait accessoire, hein, soyons bien conscients de ça. Cela dit, c'est vrai qu'on peut très bien imaginer que ce soit pour la planète et puis pour nos enfants et nos petits-enfants qu'on travaille dans ce sens-là. Hein. C'est comme ça qu'on va le voir, en tous les cas. Moi, je suis tout à fait enclin à ce qu'on travaille sur un engagement des communes à ce niveau-là, en tous les cas.
Très, très rapidement, oui. Nous, j'ai commencé par le faire dans le chemin qui dessert ma propriété. Mais je ne l'ai pas dit parce que j'avais demandé ça, ils m'auraient dit non. Mais déjà, ils ne s'en sont même pas aperçus au bout de quelques mois, mais vous avez rendu compte que de 1h à 6h du matin, matin, je n'en ai pas aperçu. Nous, on considère qu'à 1h du matin, tous les chrétiens sont rentrés. Donc, ceux qui se promènent encore en bagnole, etc., ils ont les chars. Et les piétons à 1h du matin, je n'en vois pas souvent. Donc, ça passe bien. Du coup, on l'a étendu à tous les chemins. Et il y a aussi associé avant de savoir que ça gênait ceux qui travaillaient à Calerne en particulier. Et on fait ça, et ça va aussi demander et proposer, on en parle au Conseil de l'environnement aussi, que les candélabres, ils ne sont pas encore tous comme ça. Alors là, c'est la lumière sur le sol, et pas éclairer les étoiles. Moi, j'ai encore quelques boules chez moi et j'ai honte, quoi. Mais c'est facile, ça coûte pas plus cher et c'est plus efficace. Maintenant, c'est vrai que la grande pollution vient plutôt du littoral. Bon, mon fils fait un petit peu d'astronomie amateur, mais il faut qu'il aille très très loin chez vous, là-haut, pour pouvoir avoir un ciel un peu obscur.
Le curseur, vous le mettiez au niveau d'acceptabilité optimale pour qu'à la fois ce soit réel pour les acteurs du territoire, pour les engagements des communes, que les communes vont s'engager, les communautés communes aussi, le conseil général, etc. Donc, il faut que ça soit acceptable et faisable pour les gens qui vont s'engager juridiquement en acceptant la délibérance de la l'achat. Il faut que ça soit suffisamment ambitieux pour que au Conseil national de la protection de la nature, à la Fédération des parcs naturels régionaux, au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, ils jugent que c'est suffisamment ambitieux pour une première charte pour qu'elle bénéficie du label, et puis que ça soit suffisamment ambitieux pour que ça apporte une valeur ajoutée. Mais le risque, si on imaginait un monde, plus on va aller vers le monde idéal, plus vous allez perdre des gens en route, parce que plus vous allez vous éloigner du consensus, parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas s'y reconnaître. Et forcément, à un moment, si on perd trop de gens, ça veut dire qu'on perd la communauté du projet, la collectivité du projet. Donc c'est ça la difficulté, c'est jusqu'où on va. Et en fait, ce curseur, il va un peu être différent selon les thèmes, selon le chemin qui a déjà été fait, selon la manière de travailler que vous avez déjà. Si vous êtes déjà tous plus ou moins collègues sur certains sujets, ça va être peut-être plus facile d'être très ambitieux. Puis il y a des sujets sur lesquels vous allez démarrer. Bon, je ne sais pas, sur les ciels nocturnes, peut-être qu'après une première réunion avec les communes, toutes les communes ont dit, ouais, il n'y a pas de problème, dans les 12 années, ça, c'est pas de problème, on fera extinction des feux de 13h à 5h, et mise en place avec le cofinancement de l'EDF ou je ne sais pas qui, deux luminaires à 1 mètre du sol ou 1 mètre 50, enfin, je sais pas. Enfin, peut-être que ça, c'est assez facile et très ambitieux. Mais il y aura d'autres sujets, où, comme le disait Raphaël tout à l'heure dans son exposé, il y a des sujets, c'est beaucoup de la médiation. Donc, si vous voulez rendre le parc actif en termes de médiation, il ne faut pas que l'objectif soit là, sinon vous allez perdre certains protagonistes et en fait, vous ne ferez pas avancer la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le risque. Mais il faut être exigeant. Donc, la première mouture que nous, on va vous proposer, on va essayer de la faire un peu exigeante. Et vous allez me dire, les gens de Montpellier, là, ils savent comment ça se passe ici, c'est pas possible, ça. Donc, voilà, donc vous allez peut-être nous dire en disant, non, si on veut obtenir un consensus et que tout le monde travaille sur ce thème-là, il faut ajuster cet objectif, sinon on n'y arrivera pas. Vous voyez? C'est de la négociation et c'est de la...
Je comprends bien, mais vous parlez d'avenir tout à l'heure, et j'ai l'impression que si on n'est pas exigeant, et très exigeant aujourd'hui, dans 20 ans, on va se dire on aurait dû le faire.
Quoi. Mais si vous êtes trop exigeant, vous allez travailler tout seul dans votre coin et vous n'y arriverez pas.
On est dans 20 ans, on fera la deuxième chance.
Oui, mais enfin, on peut réfléchir aussi au cadre. Quoi. Si le cadre bon, je suis agriculteur, hein, mais par exemple, si on favorise les jeunes à s'installer dans le PNR en ayant des options plutôt en bio que plutôt pas en bio, en chimique ou en agriculture raisonnée, le cadre va le jeune qui arrive et dit pourquoi pas, et celui qui veut aller faire de la chimie va aller dans la bosse ou je sais pas où. Si le cadre est serré pour un objectif haut, peut-être qu'on va avoir une image de marque de ce PNR qui va être fabuleuse et qui va attirer du coup, qui va attirer tout vers le haut, quoi. Je parle d'agriculture, mais ça peut être pareil pour les autres domaines, quoi. Et que ça soit une... Ouais, voilà.
Je pense que de toute façon, vous ne pourrez pas imposer, parce que c'est avant tout, l'agriculture, elle est encadrée par les réglementations et elle est encadrée par les crédits publics. Donc ça, c'est un élément extrêmement déterminant, c'est du déterminisme très fort sur l'agriculture française. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est encourager un certain nombre de modes d'exploitation, mais moi, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre tel ou tel mode de développement agricole. Ce que je dis, c'est que vous pouvez encourager, vous pouvez soutenir certains exploitants qui seraient volontaires sur un certain nombre d'actions, voilà, et les soutenir. Donc, je parlais encore une fois du parc du Vercors, que je connais un petit peu. Au moment où le grand, je ne sais plus si c'est Baigné, ou enfin un autre groupe laitier s'est désengagé, que les 70 éleveurs laitiers se sont retrouvés tout seuls et qu'il a fallu trouver une solution, le parc naturel régional a dit, pour ces éleveurs-là, ok, on va essayer de trouver une solution, donc ils les ont aidés à reprendre et à se monter en coopérative, ils ont acheté le camion lait alors que c'était illégal à l'époque, donc ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour sauvegarder 70 exploitations d'élevage laitier à un moment où ça ne se faisait pas trop. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont du bassin laitier d'à côté qui aimeraient bien venir rejoindre cette organisation-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne peut pas être une vision idyllique, on peut tendre vers des situations idéales, mais on ne peut pas le faire sur tout, et surtout, il y a une réglementation qu'on ne peut pas non plus... vous voyez, on ne peut pas, il y a des cadres réglementaires, le parc ne pourra pas se mettre au-dessus des lois. Donc l'idée, c'est plutôt d'encourager, de soutenir les volontaires sur un certain nombre d'initiatives qui concourent effectivement à l'idéal ou au message un peu général, ou au parc, au territoire qu'on aimerait avoir dans 40 ou 50 ans. Mais il faut qu'il y ait ce débat. Et encore une fois, il faut que tout le monde soit... On ne peut pas demander à un parc de s'occuper d'un tel et pas d'un tel. Il faut qu'on puisse, d'une manière un peu générale, travailler avec tout le monde et pour tout le monde. C'est la difficulté. C'est ce que disait le général de Gaulle, quoi. Il disait, c'est quoi encore ce texte que vous me proposez, c'était en 67-68. En fait, c'est du droit à l'état gazeux. Parce qu'effectivement, c'est tout le monde qui travaille, donc il y en a qui parlent plus fort que d'autres, à des moments ils seront plus dynamiques que d'autres, et donc c'est cette concertation, c'est ce dialogue qui permet de faire avancer, de mettre en œuvre des actions plus ou moins ambitieuses. Donc si on arrive à avoir des consensus très forts sur certaines orientations, ben, allez-y, montez l'ambition très fort, mais on ne pourra pas le faire surtout parce qu'encore une fois, le métier de base d'un parc, c'est de travailler avec tout le monde et de faire travailler tout le monde et de travailler sur la médiation. On ne peut pas faire d'ostracisme, mais après on ne peut pas...
Je suis bien d'accord, mais que les objectifs soient plutôt hauts, quoi.
Oui, oui, non, mais les objectifs, on peut effectivement...
Si c'est pour rajouter une couche...
Oui, mais il ne faut pas décourager les gens. Il ne faut pas mettre un objectif là et puis ne jamais réussir à le sauter. C'est comme si je vous demandais de sauter 5m20 tout de suite à la perche, il n'y arriverait jamais, moi non plus. Voilà, donc c'est pas la peine de mettre un truc parce que sinon on va se décourager. Peut-être se mettre à 1m80, ou bien peut-être quelqu'un d'entre vous qui peut sauter 1m80, et du coup, ben, ça va encourager l'autre. Il y a aussi la théorie des petits pas, on ne fera pas tout. Déjà, si on arrivait sur 12 ans à faire des choses différentes et plus ambitieuses que ce qui se voit dans le droit commun, ce serait vraiment bien, parce que ce serait la preuve que c'est possible, et ça encouragerait la solution de chance. Le Vercors, il a réussi à faire ça au bout de 30 ans.
Oui, Alain, on peut imaginer que, on a parlé de partenariat, le Conseil Général va être un partenaire, c'est évident, comme l'est le Conseil Général, les communes et les intercommunalités. Alors, c'est vrai qu'au titre du PNR, on peut écrire dans la charte, et ça pourrait être validé par le Conseil Général, que les installations bio, dans le cadre des programmes M par exemple, soient spécifiquement aidées par rapport à d'autres. Mais ça ne sera pas à tout le département, enfin, à tout le département peut-être, mais spécifiquement sur les campagnes, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Et bon, c'est l'objet de la discussion.
Je ne parle pas qu'au niveau de la école, hein,
Tu connais les gens.
Oui,
voilà comment on peut effectivement
mettre en place un dispositif, sans qu'il soit coercitif, sans qu'il soit extrêmement directif, ces engagements, il ne faut pas perdre de vue que ça, c'est quand même évidemment du volontariat de parc naturel régional, y compris pour les communes. On ne va pas expliquer là, mais ça sera aussi une démarche de volontariat de la part des communes. Donc ceux qui voudront adhérer, il faudra aussi qu'ils adhèrent à l'achat, et pour l'agriculture comme pour le reste d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas taper trop haut, parce que c'est vraiment des cibles qu'on n'arriverait pas à atteindre, et on n'aurait pas à ce moment-là l'objectif qu'on se dit d'avoir l'amélioration par rapport à l'instant où on parle. C'est toute une comparaison par rapport à l'instant T, c'est-à-dire celui où nous sommes aujourd'hui, et pour essayer de faire progresser, de tirer vers l'eau. Voilà, du coup. C'est la question qu'il faudrait que je pose sur son plan dans la rédaction de la charte.
Oui, c'est pour un peu aller dans le débat qui a lieu maintenant. C'est la question que je me posais, c'est comment le parc naturel va être en capacité d'apporter des informations aux gens qui travaillent sur la charte, dans le futur, dans les 10 ans à venir, apporter des informations qui soient cohérentes et riches, parce que je veux dire, il y a des problématiques aujourd'hui. On est obligé de prendre en compte, bon, on a vu qu'il y en a quelques-unes qui sont prises en compte comme l'eau, sur toutes ces problématiques-là. Mais je pense qu'en ayant un niveau d'information supérieur, on est capable de créer des objectifs qui soient aussi plus exigeants. Je pense qu'il faut qu'en permanence, les acteurs du parc soient informés des enjeux qui sont en perpétuelle évolution. Parce que je parlais du carbone, de la séquestration du carbone de tantôt, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a 10 ans, c'était un sujet inexistant. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est important. Et donc, comment on apporte de l'information aux acteurs du parc pour qu'ils puissent prendre en compte rapidement cette nouvelle information pour faire monter le niveau d'exigence. Moi, je crois que c'est un point important. Comment on informe les gens pour qu'ils puissent prendre une décision.
C'est le propre du travail du parc naturel régional, parce que le quatrième objectif, c'est l'accueil, l'information et l'éducation de la population. Donc, l'éducation ou l'information, c'est bien apporter cette information pour qu'effectivement les gens, comme ils sont de puissent se dire, ah mais oui, mes enfants, c'est bien sûr, je comprends mieux pourquoi, et je comprends comment vous allez m'aider. S'il faut, il ne faut pas que donner des éléments diagnostiques en disant, attention, l'enjeu est en train de s'aggraver, on a fait un bilan, on a fait une étude qui montre que la situation devient dramatique sur tel point, et après, il faut dire, oh, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Après, il faut aussi le parc trouve des outils, des moyens, des tas de projets, récupérer l'ingénierie, le monde financier. Je pense que c'est, de toute façon, c'est bien dans l'objectif de la charte.
Mais compte tenu de la grande diversité du territoire, on risque d'avoir peut-être des problèmes au niveau agriculteur, par exemple, un agriculteur de carottes n'aura pas nécessairement les mêmes problèmes qu'un éleveur à l'IRA. Et cette représentation du développement du savon, est-ce qu'on n'arrive pas à satisfaire la même chose? Ou est-ce qu'on arrive à satisfaire personne? Ça, c'est un premier point. Au niveau aussi, je pense, dans les habitants sur Grasse, la région de Grasse-Folle, on n'a pas les mêmes outils et la manière de faire des logiques que quelqu'un de la garder. Est-ce que ça vous a permis d'avoir à ce moment-là un mot au niveau de l'époque du territoire, de parc, entre le nord et le sud? Et avec
le sens des règles, je pense que personne d'entre vous, enfin moi je ne suis pas un nationaliste, je m'en fous, mais personne d'entre vous remet en cause le fait que vous vous reconnaissez un peu dans l'État-nation française. Hein? Bon. Personne d'entre vous dit moi je ne suis pas des Alpes-Maritimes, de la région méditerranéenne, etc. Donc, moi je ne suis pas contre une analyse un peu fine par sous-bassin au sein d'un territoire de 45 communes. Mais je pense qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on va pouvoir faire de la gestion partielle, voire partiale, pour traiter telle particularité ici, telle pas. Il y a un projet de territoire, il est global, il faut que tout le monde se sente un peu solidaire. Donc, ça, pour créer de la solidarité, il faut tenir compte des différences. Je suis d'accord, mais il faut que ces différences, elles travaillent, enfin que les actions qui sont mises en œuvre pour traiter les différences entre ce côté-là du territoire et ce côté-là, elles militent vers la même idée, vers le même projet collectif d'unité et de solidarité territoriale. Donc, oui, à condition que, pour traiter les différences, parce qu'évidemment, de toute façon, on ne va pas
proposer des choses qui sont incohérentes et qui répondent à un problème sur une partie du territoire, mais en même temps, je pense qu'il faut essayer d'encourager les gens pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans un projet collectif et qu'il y a un équilibre. Le ciel, il est à tout le monde, et il couvre, alors, je ne suis pas un spécialiste, mais il doit couvrir, je ne sais pas, pendant 3-4 heures, il doit peut-être être à peu près le même, peut-être, pour 20% de la population. Là, on a un territoire avec 49 communes, une cinquantaine de communes, donc c'est le même territoire pour tout le monde. Il y a des spécificités du côté de la montagne, il y en a d'autres du côté plus proche de Grasse, mais ben, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue, une discussion. Il y a un premier dialogue et on essaie de trouver un premier consensus d'ici l'été, et tout ce qui fera consensus, ça sera dans la charte. Et tout ce qui ne fait pas consensus, et ben, ça veut dire que pendant la période de la charte, il va falloir apprendre à travailler ensemble. Il faudra dire aux gens, voilà, si vous voulez qu'on travaille ensemble sur tel sujet, ben, venez avec nous, on travaille sur tel projet, on a une action. Encore une fois, dans le Vercors, je reste dans le Vercors, les gens qui sont du côté de Sassenage, qui sont donc en partie dans l'agglomération de Grenoble, et les gens qui sont à Bastieux, là-haut, avec leur chien de traîneau, n'ont pas grand-chose à voir. Et pourtant, ils sont dans un projet fédérateur qui est le projet de parc naturel régional. Et ils ont des choses à se dire parce que les loupiaux de Grenoble, ils ont appris à skier soit dans les massifs d'Hercors, soit dans les massifs de la Charcose. Donc ils ont des choses à se dire. Et les gamins, ils ont bien ça en tête, y compris ceux des lycées de Grenoble. Donc c'est travailler à ce lien qu'il faut faire. Donc oui, au traitement différencié, parce qu'il faut répondre à des problèmes un peu différents, mais dans le cadre d'un projet global, il faut vraiment marquer les pas, sinon on va faire la somme, ça sera un poste, quoi. Chacun va faire son petit business, son petit cliché, tu vois, alors, on n'aura plus vraiment un projet très cohérent. Donc il faut vraiment veiller à ça. Moi je suis comme vous, enfin, j'étais comme vous. Et le problème c'est qu'on a beau dire ça aux gens, alors on dit bon on fait une petite charte, hein, 30 pages, hein, quelques objectifs forts, centrés, etc. D'accord ? Oui. 5 mois après, on a un document qui fait 100 pages, tout le monde y a mis son tiroir, sa chemise, son pantalon, une garde-robe complète pour à peu près 15 hivers, quand on est au chaud sans problème. Puis, effectivement, on ne fera pas tout. Donc, c'est là aussi un autre exercice, c'est d'arriver malgré tout dans une approche un peu globale, d'être capable d'encourager et d'aider le maximum de gens dans leurs initiatives et leur action avec un objectif commun assez ambitieux à 40 ans, moi j'ai 30 ans, c'est plus loin, bon, à deux chartes et demie, mais en même temps en essayant de resserrer les ambitions sur des objectifs réalistes, sur des objectifs sur lesquels on va vraiment, y compris se creuser la tête, parce que ça ne va pas être très évident, etc. Donc oui, sur le principe, dans la réalité, c'est pas possible. Parce que, regardez, on est 80, je peux rester jusqu'à ce soir midi, vous allez encore demander, hein. Donc, enfin bon, on restera pas nombreux, hein, on fera peut-être une dizaine à la fin, mais je peux vous assurer que c'est, vous serez intarissable. Donc, oui, c'est le principe, mais le problème, c'est que, voilà, on est dans la négociation, enfin, ce que j'appelle de la négociation, parce qu'à un moment, il faudra faire des arbitrages et dire, bon, c'est prioritaire ou c'est pas prioritaire. Vous engagez ou vous engagez pas? Pour cette charte ou la prochaine? Donc, il y aura quand même des arbitrages à faire, et forcément, oui, la difficulté de la hiérarchisation des enjeux, c'est qui est souverain pour hiérarchiser. Si je vous laisse la parole, je vois à peu près comment la tonalité va passer, quoi. Ça va être du vert et du noir, hein. Si je laisse la parole dessus. Donc il faut que tout le monde parle, et donc il faut que l'arbitrage soit un consensus, que l'ambition elle soit constructive. Bon, après, ce sont les élus qui, en tant que responsables de la gestion du syndicalisme, diront, bon, on a assez rigolé, on travaille à cette hauteur-là, ok, j'ai bien compris vos envies, vos projets, etc., mais on ne pourra pas tout faire, mais on verra un moyen parfait. Par ailleurs, je rappelle que la charte, elle est écrite pour 12 ans, et vous n'allez pas la réécrire pendant 12 ans. Donc, il faut quand même qu'elle soit
l'écran dans lequel vous allez déposer d'autres bijoux que celui auquel vous pensez tout de suite. Il y a plein de parcs qui ont mis en place ces trois dernières années un plan climat ou un plan énergie climat ou un plan énergie, etc., qui n'était absolument pas écrit dans la charte à l'origine. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, quoi. C'est pour ça que je dis, ne dites à personne, la charte est un élément important, mais le plus important, c'est le climat conscient dans lequel vous allez travailler maintenant, et qui va créer la richesse. C'est ça, c'est la même. C'est des êtres humains, et c'est ça qui va créer la richesse. C'est bien d'écrire toute la conscience, parfois, en fait, quand même, un peuple de paroles. Les gens, quand ils sont engagés, bon, évidemment, il y a des choses, il y a des paroles qui parlent, etc. Mais, malgré tout, quand vous êtes engagé, vous avez créé un lien de confiance. Bon, c'est ça qu'on a de dire, c'est peut-être ce caractère un peu soudé, quoi, de l'engagement des gens. Une dernière question ? Bon, cela dit, moi j'ai répondu, mais je ne suis pas du territoire. Moi, hein, donc, vous répondrez aux prochaines questions. Moi, je vous aide, enfin, Raphaël et moi, on vous aide un peu méthodologiquement, mais c'est votre territoire, c'est pas le nôtre. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Vous n'avez pas resté jusqu'à midi, moi non plus. Allez, une dernière pour la route.
Ouais, je sais pas, mais dans le cadre énergétique, vous avez parlé que d'autres parcs ont travaillé là-dessus. Moi, c'est mon rêve que d'être autonome, par exemple, au niveau personnel, mais j'imagine au niveau d'un parc, ce serait fabuleux. Dans quel cadre le PNR pouvait aiguiller ça? Parce que je n'ai pas l'imagination pour l'instant, si j'ai des idées, mais sans fond privé ou public, j'arrive pas à imaginer comment c'est possible, comment le PNR pourrait faire quelque chose dans ce sens-là.
La solution, c'est ce que vous dites, hein, c'est d'aller chercher l'expérience ailleurs. Le Luberon a mis en place une démarche. Il y a plusieurs parcs qui travaillent sur le diagnostic déjà énergétique, c'est un premier pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on produit. Et ça, c'est déjà un premier diagnostic. Alors, vous pourriez avoir comme première action la réalisation d'un diagnostic, qui est un petit peu coûteux, parce que selon les méthodologies et les techniques qui sont utilisées, on est plus ou moins, enfin, c'est plus ou moins coûteux. Donc, une des premières actions, ce serait de faire ce diagnostic, et après d'inscrire dans la charte la mise en place d'un plan d'action spécifique d'économie, d'énergie et de suivi de cette consommation. Vous prévoyez une action et après je ne peux pas vous dire quel est le gain énergétique auquel savoir si vous allez arriver à une neutralité complète.
Non mais je ne parlais pas d'économie, moi je parlais de création des agents.
Ah oui,
que ce soit éolien, c'est au courant, j'ai monté un projet il y a quelques années qui n'est pas passé, mais c'était de récupération d'huile pour pouvoir tourner.
Encore une fois, il peut y avoir une orientation stratégique dans la charte qui a pour ambition de traiter ce sujet-là, avec plusieurs actions à définir, elles ne sont pas toutes connues, mais on sait que c'est une orientation et un objectif. Après, le contenu qui sera mis en place va dépendre un peu du diagnostic et qui sera soit effectivement à la production énergétique, soit à l'économie d'énergie. 50% de la position. Enfin, on peut faire des gains de 50%, ne serait-ce qu'en travaillant sur la vitesse existante. Donc, donc, vous pouvez décider de mettre en place un plan énergie climat sur l'ensemble des territoires, avec les paliers et les étapes à mener, jusqu'à l'idée éventuellement de produire, vous mettez en place un schéma de production énergétique avec l'aide des collectivités, etc. Donc, ça peut être une des orientations. C'est pas trop bien.
Un projet nouveau, par exemple, étant donné la vitesse que l'on vit aujourd'hui, depuis 12 ans, il y a certaines idées que l'on n'a pas...
Une dernière question qui vous permettrait pas.
Depuis 12 ans, il y a certaines idées qui n'émergent pas aujourd'hui. Est-ce qu'un projet véritablement nouveau, mais qui n'aurait pas été défini dans la charte, est-ce qu'au niveau du parc naturel régional, il pourrait être aidé, subventionné, je veux dire, est-ce qu'il pourrait pas obligatoirement définir la charte pour être aidé?
Ce qu'il faut différencier, c'est la stratégie, donc les orientations stratégiques, les mesures génériques, en fait, les thèmes sur lesquels vous allez travailler, les objectifs que vous vous assignez là-dessus, et ensuite le programme d'action, les opérations, les dossiers, etc. Ce sur quoi vous vous engagez, ce sont les orientations stratégiques. C'est la politique générale, c'est les objectifs spécifiques sur un certain nombre de thèmes, etc. Le programme d'action, tous les 3 ans, vous le renvoyez avec vos partenaires financiers. Donc, certaines actions que vous ne connaissez pas aujourd'hui, vous n'avez pas en les monter. Du moment
si elles répondent à l'objectif que vous avez écrit dans le chat, il n'y a pas de problème. Donc il faut prévoir un cadre un peu générique qui va accueillir, c'est pour ça que je parlais d'écran, qui va accueillir ensuite certaines machines. Merci beaucoup. Je me permets de repasser la parole, je ne sais pas qui d'ailleurs, pour le futur. En tout cas, personnellement, merci beaucoup. Je passe la parole pour la conclusion.
Oui, un mot de conclusion, d'abord pour vous remercier d'avoir été si intelligent, c'est comme ça qu'on va nourrir effectivement notre projet, donc je vous demanderai de ne pas oublier tout ce qui vient d'être dit, de le faire fructifier à travers les prochaines réunions cantonales, puisque vous avez bénéficié d'une première information, donc ce ne serait pas idiot que vous veniez aux réunions cantonales à celles qui vous intéressent dans votre secteur, pour que la pertinence de vos interrogations d'aujourd'hui soit restituée à cette occasion-là, et qu'ensuite, de fil en aiguille, on ait le 13 mars, le document de synthèse, qui est un document intermédiaire, puisque, regardez, vous avez sous les yeux le slide qui représente l'évolution de la charte et de la discussion. Il y aura ensuite, alors nous en sommes, voilà, nous en sommes ici. Ensuite, nous aurons le 13 mars le forum des habitants. Les quatre commissions thématiques dont on vous a parlé, qui seront réitérées deux autres fois et qui permettront, après le dernier forum des habitants, de rédiger l'avant-projet de charte lui-même. Voilà, nous serons en 2009, c'est-à-dire, oui, en 2009, c'est si on arrive à tenir, ça va bien. Et nous soumettrons ce projet au CNPM qui nous rectifiera la copie qui nous a été. Donc vous voyez qu'on n'aura encore rien.